BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est quasiment midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour et l'optimisme qui est de retour sur les marchés mondiaux après de nouvelles déclarations de Donald Trump concernant la possibilité d'un accord avec l'Iran. Les places boursières sont dans le vert, y compris notre CAC 40. Les prix du pétrole sont nettement repartis à la baisse avec un baril de Brent autour des 92$ ce midi. Bien qu'en légère baisse, le marché obligataire reste relativement tendu avec un 10 ans français toujours autour des 3,7% et un 10 ans allemand toujours au-delà des 3%. Un optimisme qui reste mesuré donc malgré les déclarations de Donald Trump ces dernières heures parlant des derniers efforts en vue d'un accord avec l'Iran dans un délai, je cite, de 2 à 3 jours. Enfin, dans le reste de l'actualité côté entreprise, notez cet important rappel de véhicules pour Stellantis. 1,3 million de Jeeps concernés pour des risques d'incendie, dont l'essentiel en Amérique du Nord. Et puis dans le secteur pharmaceutique, grosse opération pour le géant britannique GSK qui annonce le rachat de Nuvalent, une société américaine spécialisée dans la lutte contre le cancer, rachat pour plus de 10 milliards de dollars. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, le pro de l'IMO, des témoignages, terrain de vos métiers et des conseils d'investissement. Aujourd'hui, on va investir, nous particuliers, dans l'immobilier commercial. Et attention, à partir de seulement 1 euro, on vous dit tout dans notre pro de l'IMO du jour. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. On va parler rénovation énergétique, mais pas que. On va parler travaux au sens large. Parce que faire des travaux, c'est pas juste gagner des notes de DPE. C'est pas juste se conformer à la réglementation qui change toutes les deux semaines. C'est aussi valoriser notre patrimoine. Alors, quels travaux faire pour maximiser ses gains à la revente potentielle? On verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du Pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le Pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Thomas Dansé, cofondateur et directeur général de la Première Brique. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie.
Bon, j'ai 1 euro dans ma poche, je vous les donne. Et qu'est-ce que vous allez faire avec mon euro symbolique?
Alors déjà, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire avec votre euro symbolique et surtout dans quelle enseigne, dans quel mur de commerce vous allez souhaiter investir. On a vraiment voulu démocratiser une classe d'actifs immobiliers qui est bien connue des institutionnels, qui sont les murs de commerce, en fait les locaux commerciaux avec des enseignes qui parlent aux Français.
Oui, donc, parce qu'à chaque fois, je dis notre immobilier, nos logements, préambule, oui. Je pense que c'est un type de langage et puis l'habitude, au bout d'un moment, c'est la petite musique, ça va bien. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est l'immobilier commercial que vous me proposez.
Exactement. L'idée, c'est justement de travailler sur cet immobilier commercial qui est très connu des acteurs professionnels et institutionnels, assez méconnu des particuliers parce que plus compliqué en termes d'accessibilité, que ce soit sur les montants, que ce soit sur les notions juridiques et techniques liées aux locaux commerciaux. Et pourtant, tout le monde le sait, c'est une classe d'actifs qui est très intéressante dans le monde de l'immobilier, surtout en ce moment où on parle beaucoup de sujets par rapport au DPE, aux travaux, au plafonnement des loyers, à un marché immobilier du particulier qui est un petit peu en berne. Et donc du coup, l'immobilier commercial tire son épingle du jeu encore plus qu'avant.
Bon, et alors, quand vous dites immobilier commercial, c'est large. Si j'ai plus qu'un euro, si j'ai envie d'aller m'éparpiller un peu, vous me proposez quoi là pour investir dans l'immobilier commercial? Quel immobilier commercial?
Alors déjà, vous avez rappelé la règle d'or, c'est diversifier effectivement. C'est vraiment investir sur plusieurs projets parce que forcément, investir comporte des risques. On a décidé de nous proposer de l'ordre de un projet par semaine sur de l'immobilier commercial assez varié. On a fait un premier projet la semaine dernière qui était sur les murs d'une salle de sport exploitée par une grande enseigne européenne.
Un fitness park, c'est ça?
Exactement.
Oui, je connaissais pas le nom, mais je fais vraiment vieille bique en disant ça, mais un fitness park, donc une salle de sport.
Une salle de sport qui a été financée par 2507 investisseurs. Ce qui est rigolo, c'est que dans la salle de sport, il y avait 2000 adhérents et il y a 2507 investisseurs qui ont financé cet investissement. Pour la petite stat, 80% d'hommes, 20% de femmes. Donc, on est aussi assez content de voir que c'est un produit d'investissement qui parle à notre population féminine avec qui on est.
Bon, en minorité, là, vous m'avez dit 80% d'hommes.
Quand on regarde par rapport à d'autres stats, on est plutôt satisfait de voir
oui,
que justement, ce 20% est plutôt bien. Oui. C'est une certaine victoire, effectivement. Un âge moyen de 38 ans, pareil. Donc ça, c'est aussi assez intéressant à étudier.
Très jeune, très jeune.
On a fait Ça reste jeune, exactement. Mais parce que si c'est un investissement qui est digital, qui est accessible en ligne, donc forcément, ça parle plus à ces générations.
Bon, c'est hyper intéressant le fitness park, mais j'imagine qu'il y a d'autres types d'investissements, parce qu'aujourd'hui, je sens bien que c'est à la mode, les salles de sport, on a compris, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'investissements dans l'immobilier commercial que vous allez proposer, que vous proposez actuellement ?
Bien sûr. L'idée, c'est de proposer aux gens, en fait, d'investir dans les enseignes qu'ils préfèrent et les enseignes qu'ils consomment au quotidien. Donc là, on travaille sur les murs d'une pharmacie, sur des murs de supermarchés, sur des grandes marques de distribution, sur des marques de restauration qui vont parler à tout le monde. Bon, je ne sais pas si je peux donner vraiment les marques.
Si, allez-y, vous êtes sur BFM okay. Business, allez-y.
Donc là, on regarde les murs d'un Action, par exemple, les murs d'un casino. On va regarder les murs d'un Quick. L'idée, c'est de travailler justement sur des enseignes aussi qui parlent aux gens, qui bien sûr ont un positionnement qui est cohérent. On va vraiment regarder la cohérence du locataire, la cohérence du bail, la solidité du bail pour avoir un rendement attractif et surtout une projection de rendement attractif dans les années à venir pour nos investisseurs. Mais l'idée, c'est d'être très diversifié et qu'en fait, les gens viennent se faire leur portefeuille sur mesure en décidant d'investir dans telle et telle région, dans tel et tel domaine d'activité vraiment, et qu'ils aient le choix sur leur investissement.
Thomas, on a dit 1 euro, c'est le montant minimal, ok, mais c'est quoi l'investissement moyen chez vous ? J'imagine que c'est pas 1 euro, je plaisantais quand même en disant 1 euro, mais j'imagine qu'on met un petit peu plus. Et pour quel rendement ? Parce qu'on va parler chiffres quand même avant de se quitter.
Bien sûr. Alors oui, 1 euro, c'est le ticket d'entrée. Sur ce premier projet qui était le fitness park, on a eu un ticket moyen de 250 euros, ce qui reste relativement bas dans le monde de l'investissement immobilier, mais ça nous va bien à nous parce que ça montre qu'il y a ce côté et cette envie de diversifier et cette envie de tester justement cette nouvelle classe d'actifs et pour beaucoup de personnes qui n'avaient jamais investi en fait dans des murs de commerce, de découvrir aussi cet univers. Et pour ce qui est du rendement en face, on est sur un rendement moyen entre 6 à 9% avec un horizon d'investissement
brut
de l'ordre de 5 ans.
Brut.
Avant fiscalité, tout ouais. À fait. Sachant que c'est pas la fiscalité de l'immobilier classique, c'est de la flat tax.
Donc à 30%.
Exactement.
Et juste quand même une question, vous disiez alors de l'ordre de 5 ans, parce qu'on est sur un modèle de crowdfunding immobilier. D'habitude, moi, les modèles que je connaissais jusque-là, c'était sur des investissements beaucoup plus courts avec des rendements un peu stratosphériques, 9, 10, 12%. Là, en l'occurrence, on est plus sur un modèle d'investissement moyen-long terme quand même.
On a voulu faire le mi-chemin entre le crowdfunding et la foncière, ou on va dire la SCPI, même si c'est pas comparable, bien évidemment, pour plein de raisons. Mais justement, on voulait travailler sur un horizon de temps qui était de 4-5 ans, qui en immobilier est assez intéressant parce que ça correspond à des cycles, justement, et un rendement qui, bien évidemment, est un petit peu plus bas. Le risque en face est lui aussi plus bas. Donc, il y a une cohérence, bien évidemment, par rapport au couple rendement-risque, toujours.
Et une cohérence aussi dans les véhicules et dans les entreprises que je vais aller soutenir, que ce soit le fitness park ou le burger de chez Quick. Merci à Thomas. Thomas Dansé, cofondateur et directeur général de la première brique avec nous sur BFM Business dans les experts de l'IMO. C'est l'heure du débat tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Moi, je serais plus tentée par le burger pour les gens qui me connaissent, mais... Bonjour Miaï, je vais jamais y arriver.
Si.
Gavril Oyu, mais si je le fais bien en
parfait.
Plus, merci
Miaï,
le patron de GoFlint qui est avec nous et également à mes côtés François de Chavagnac, directeur grand compte d'Helico Travaux. Bonjour François.
Bonjour Marie.
Oui, Miaï, c'est une grande histoire d'amour entre nous, j'ai toujours eu du mal avec son nom de famille la fois dernière, aucun problème.
Et là,
il fallait bien que ça bug à un moment donné. Tous les deux, vous êtes sur ce plateau pour qu'on parle travaux au sens large. Alors, avec Miaï, c'est toujours très axé sur la réno et le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Avec vous, François, on va aller plus loin encore dans les travaux parce qu'on sait que l'un va avec l'autre souvent et qu'il y a des gestes qu'on n'imaginait pas et qui sont quand même assez rentables à la fin, au bout du bout, en termes de plus-value. Parce que c'est ça le sujet. À chaque fois, on n'arrête pas de dire « Bon, bah, la réglementation, elle évolue. Est-ce que la valeur verte, elle va changer ou pas ?» On va voir ça tout de suite, Miaï. Mais en réalité, derrière tout ça, au-delà de « je dois me conformer aux règles et à la loi », il y a quand même un enjeu de préservation du patrimoine et de valorisation de ce patrimoine. Déjà d'un mot, Miaï, parce que c'est quand même tout ça, cette petite musique derrière les obligations de rénovation, ces assouplissements, etc. Aujourd'hui, on en est où de cette valeur verte, Miaï ? Est-ce qu'elle existe encore ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle s'est fragilisée avec les déclarations politiques ? Parce que j'allais dire décision, mais pour l'instant, rien n'est acté dans le marbre, hein, pour l'instant, des annonces qu'on a eues ces derniers mois.
Non, mais la fluctuation de ces décisions qui peuvent intervenir ou ne pas intervenir, en fait, contribue aussi à fragiliser la valeur verte. Ce que nous avons vu dans notre dernière étude, c'est que la valeur verte, donc on prend les biens au DPE A et B. Les meilleurs.
Du logement neuf, hein, clairement. Hein.
Du logement neuf ou très fortement rénové. On a vu que cette valeur a baissé de 1,1% lors de la dernière étude. En revanche, les passoires thermiques, donc les DPE F et G.
Les pires, les passoires.
Les passoires thermiques, leur valeur n'a baissé que de 0,1%.
Donc on sent qu'il y a quand même une forme de rééquilibrage ?
On sent qu'il y a une forme de rééquilibrage. On sent aussi que finalement, les dernières réformes contribuent à rendre la passoire thermique progressivement plus rare que la maison verte ou que l'habitation verte.
Parce qu'elles ont été rénovées ?
Parce qu'elles ont été rénovées administrativement.
Oula. Alors oui, vous allez voir le tour de baguette magique de l'État. Ça veut dire quoi, rénover administrativement, Mia ?
Ça veut dire rénover administrativement que la régulation qui fait que le calcul du DPE pour un bien chauffé à l'électricité est passé au 1er janvier 2026. On a un ratio entre l'implémentation, le calcul de l'énergie électrique par rapport à l'énergie du gaz ou des hydrocarbures, on est passé de 2,3 à 1,9.
C'est un coefficient, en fait. Et pour vous donner un ordre d'idée, le gaz est à 1 aujourd'hui. Et donc, il y a des acteurs de la rénovation et promoteurs de la décarbonation de notre économie qui disent depuis longtemps, c'est quand même complètement hallucinant qu'on était à 2,3 sur l'électricité, énergie décarbonée, versus 1 pour le gaz. Donc, le gouvernement, le timing, est-il le bon ? Je ne sais pas. Décide d'abaisser ce coefficient pour qu'il passe à 1,9, ce qui fait que de fait, on a revalorisé dans le diagnostic de performance énergétique les biens chauffés à l'électricité.
Une partie, du coup, à peu près on estime entre 700 et 850 000 selon les études, ont pu quitter le statut de passoire thermique pour devenir des biens normaux. Ce qui veut dire aussi que d'un point de vue valorisation, sans avoir à mettre un coup de marteau, de l'isolant ou un quelconque effort, et surtout sans avoir à perdre de surface dans le cadre d'isolation par l'intérieur, on est passé sur des biens qui se sont apprécié de 5, 10, 15% sans effort pour le propriétaire.
Bon, après, on ne va pas reparler du fait que c'était quand même... Il y a un sens, hein, quand même. Hein. Après, le timing, quand on sait qu'on n'arrive pas à tenir les objectifs de rénovation. Bon, bref, peu importe. Mais enfin, il y a un sens quand même et on a gagné quand même, effectivement. Et on a cette espèce de petit rééquilibrage. Cette valorisation du patrimoine par la rénovation énergétique chez Illico Travaux, j'imagine que vous la mesurez aussi dans les intentions des Français de rénover leurs biens au sens large.
Exactement, exactement. En fait, on va faire beaucoup de rénovation globale. Souvent la motivation première n'est pas forcément la rénovation énergétique,
c'est ça, ouais.
Mais on fait de la rénovation, on regarde son portefeuille, l'investissement qu'on y fait pour la rénovation, mais aussi les coûts de notre logement, les coûts de l'énergie, etc. On est un petit peu informé, peut-être pas suffisamment non plus, parce que c'est parfois...
Les gens n'écoutent pas assez BFM Business.
Probablement. Et puis ça change de temps en temps quand même, hein, aussi, donc c'est pas très, très
même
simple.
Même nous, on a du mal à se mettre à la page.
Mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend bien compte, effectivement, qu'on est sollicité pour une innovation globale, mais très rapidement, on dit, le côté énergétique, qu'est-ce qu'on va faire ? Parfois, on nous propose des solutions qui sont soi-disant magiques, puis on se rend compte que c'est pas les bonnes, mais là, on est là pour conseiller, pour accompagner aussi. Donc, rénovation énergétique, oui, indispensable aujourd'hui, mais pas toujours en première intention lorsque...
Non, vous allez essayer de l'inclure en fonction de l'intention initiale du propriétaire et des travaux qu'ils veulent mener, mais en même temps, sur notre sujet, parce qu'au départ, je vous ai fait venir pour cette valorisation du patrimoine. Je trouve ça génial, vous m'avez fait un petit tableau récapitulatif de qu'est-ce qui finalement rapporte le plus comme investissement dans les travaux, à la fin, dans la valorisation de mon patrimoine. Eh bien, figurez-vous que la rénovation énergétique, c'est pas ce qui rapporte le plus. Non, c'est la décoration, l'aménagement des combles, et le garage transformé en chambre.
Exactement. Alors, il faudrait relativiser un petit peu aussi, parce qu'il y a des notions fiscales, j'allais dire, avec la rénovation énergétique.
Et des aides, oui, dont on peut bénéficier,
ça, exactement,
ouais, bien sûr.
Exactement, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment à tempérer un petit peu, quand même, ce propos-là. Donc, on va volontairement mettre ça un petit peu de côté. Et de prime abord, oui, le meilleur retour sur investissement, très clairement, si vous voulez valoriser votre bien, ça va être déjà la décoration, la rénovation légère, en fait, le rafraîchissement.
On va maroufler.
On va maroufler, ça peut faire écho, mais blague à part, c'est effectivement, on va travailler, sur l'esthétique. C'est une rénovation qui est plus légère, donc moins d'investissement.
Moins coûteuse. Oui.
Exactement, beaucoup moins coûteux. Et puis, c'est une rénovation, flatteuse à l'œil aussi.
Mais c'est terrible de se dire ça, François, quand même, n'empêche. Hein.
Et sans perte de surface,
ouais.
Exactement, et sans perte de surface. Donc oui, c'est terrible. Alors après, encore une fois, on vient de l'évoquer à l'instant, hein, ça va être souvent la première approche, et puis après, on va y greffer d'autres choses. Là, après, c'est toute la part de conseil de l'intervenant aussi, et puis justement, d'étudier la situation précise du porteur de projet, pour ces raisons justement d'aide fiscale, etc. C'est là-dessus que trouve tout son sens, l'accompagnement qu'on va pouvoir apporter. Mais je vais dire, pour être un peu cru, effectivement, pour répondre très clairement à votre question, le meilleur retour sur investissement, on va dire, sans tenir compte de ces etc.
C'est la déco.
C'est l'aspect plutôt rafraîchissement.
Non, mais vous l'avez. Alors, pour un appartement, je vous lis, pour un appartement de 60 mètres carrés, un budget de rafraîchissement de 15 à 20 000 euros peut générer une plus-value de 30 à 40 000 euros. Ouais. Donc, je double.
Oui. De manière générale, de toute façon, une rénovation. On est toujours très prudent quand on parle de moyenne au mètre carré, etc. Mais on va se dire, allez, 1500 euros du mètre carré. Vous voyez l'impact que ça peut avoir sur une vente quand vous êtes sur des zones un peu tendues avec des prix au mètre carré élevés. Si ça vous fait gagner 10%, 20%, parce que globalement c'est à peu près 20% du bien qu'on va pouvoir aller chercher avec, j'allais dire, un bien plus présentable, on va dire ça comme ça. Et à la fin, vous vous y retrouvez très clairement. Vous avez 1500 du mètre carré, vous les retrouvez.
Ça fait
une belle passoire thermique, c'est très bien.
Mais ça
se vend bien.
Mais oui, et d'ailleurs, c'est toute une théorie aussi que vous développez chez Goflint, parce qu'effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est que quand je fais une isolation par l'intérieur, alors certes, je vais peut-être revaloriser mon patrimoine parce que je vais gagner une ou deux notes, mais en fait, de l'autre côté, je vais perdre des mètres carrés. Donc ça aussi, c'est un calcul subtil que vous avez fait chez Goflint.
C'est ce qu'on regarde, c'est vous achetez un bien. Mettons que vous l'achetiez 250 000 euros, c'est peu ou prou le prix médian d'un bien immobilier en France. Vous allez payer 8% de frais de notaire, puisqu'on a pris l'augmentation des DMT.
Droit de mutation à titre onéreux. Parce qu'après, les notaires, ils m'aiment plus m'y aille.
Donc, vous rajoutez les 8%. Vous perdez peut-être, on va dire, entre 6 et 8% de surface selon la taille d'origine de votre bien. Vous avez les coûts travaux qui vont venir s'ajouter. Vous avez ou non les aides. Alors ça dépend aussi parfois du calendrier réglementaire. Est-ce que le guichet MaPrimeRénov est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il fait de la rénovation d'ampleur ou juste du monogeste? Ça, c'est à vous de voir au moment où vous y allez. Mais si vous faites ça sans finalement supposer que vous bénéficiez d'aide et sans prendre en compte les économies d'énergie...
C'est ce que vous finissez tous par faire dans vos évaluations.
C'est plus simple.
Vous comptez plus sur l'aide publique.
C'est plus simple d'ailleurs. Pour modéliser, c'est beaucoup plus simple pour nous. On se rend compte que dans Paris, finalement, rénover, dans la plupart des cas, on détruit de la valeur. Donc il vaut mieux avoir effectivement une belle décoration, un bien qui présente bien, qui n'a pas perdu de surface, qui va plaire, et finalement dans certains marchés, la passoire thermique ou quasi-passoire thermique est plutôt la norme. À Paris, avoir un F, un G ou même un E, c'est pas très choquant, c'est la majeure partie du parc immobilier. En revanche, si vous allez dans d'autres villes, si vous allez à Saint-Étienne, et ben là, votre T3 de 70 mètres carrés en F et G, il aura peut-être 45% de décote par rapport au même bien en A et B.
Oui, donc forcément.
Donc là, vous vous posez la question pour le coup.
Forcément, il faut regarder où on se trouve. D'ailleurs, je crois que sur votre site, Miaille, on peut justement aller dans cette finesse-là. C'est-à-dire que.
On a 6000 codes postaux et on peut aller par code postal pour voir les gains de mètres carrés.
Ce qui est vrai à Paris n'est pas forcément vrai ailleurs en France et heureusement d'ailleurs.
Ce que l'on voit, c'est globalement ce qui est vrai en France n'est pas vrai à Paris.
Ouais, c'est ça. Plutôt... Paris, c'est vraiment quand même une exception. Et d'ailleurs, à Paris, je pourrais pas mettre de piscine parce que ça aussi, ça m'a intéressé. Le lien est nul, mais quand même, moi j'adore ce jeu à qui tout double sur la piscine. Parce que d'un côté, on a ce qui est objectif, la rénovation, je gagne quand même des économies d'énergie à l'usage, etc. Mais il y a quand même des trucs qui, à la fin, vont quand même me coûter de l'argent, parce que l'entretien d'une piscine, j'imagine que c'est pas complètement gratuit, mais qui va revaloriser ou pas mon patrimoine. Ça aussi, vous l'avez évalué.
On arrive sur des sujets un peu sensibles, un peu controversés, aussi sur la piscine, pour plein de raisons différentes. Et vous avez noté, ça arrive en 7e, je crois, je sais plus, dans la liste.
Mais alors, vous m'avez mis des petites étoiles sur le retour possible sur investissement. Ouais. En fait, ils m'ont classé ça chez Illico Travaux, ils sont formidables. en petite étoile entre le moins revalorisé en sortie et le plus. Et alors, pour la piscine, on va de 2 à 5 étoiles. À 4 étoiles.
Et c'est hyper variable, évidemment, dépendamment de la région. Beaucoup, vous doutez bien que la piscine dans le sud-est n'est pas valorisée de la même façon que dans le nord de la France, par exemple. Ça va dépendre du bien aussi. C'est une maison familiale, ça va plus se valoriser, etc.
Et puis ça dépend de la piscine, j'imagine.
Ça va dépendre de la piscine, exactement. Et puis pour le coup, c'est encore plus vrai que sur tout le reste, ça dépend des choix que vous faites sur cet investissement-là, parce qu'une piscine, vous allez pouvoir faire des choses à 20, 30 000 euros, et vous allez pouvoir faire des choses... Il n'y a pas de limite, en fait, sur le budget.
Quand même, juste parce que c'est de saison, et après tout, ça fait du bien de parler de choses un peu légères, mais enfin, admettons que j'ai l'espace pour mettre une piscine et que je suis dans un secteur où, a priori, ça peut se valoriser. C'est quoi le meilleur choix de piscine? Dans quelle configuration cette piscine peut être la plus rentable à la fin en termes de plus-value si je veux revendre à la fin mon bien avec la piscine?
Ouais, alors, en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la piscine, c'est... C'est la palissade, pardon, mais c'est un agrément, clairement, c'est un loisir, c'est un agrément. Donc en fait, ça va être sur son intégration. Je vais être très direct. Vous avez un petit jardin, vous avez une piscine qui prend toute la place et les enfants pourront plus courir. Peut-être que ça va
pas valoriser.
Ils pourront nager, oui, mais peut-être pas toute l'année non plus, Marie. Donc voilà, on peut l'imaginer. Vous faites une piscine pour être un peu trivial, qui est juste un trou, qui est pas paysagé, qui est pas voilà, parce qu'on pourrait parler de paysagisme.
Oui, parce qu'en plus il y a les piscines enterrées, il y a les piscines pas enterrées.
Voilà, exactement.
Juste une piscine gonflable,
c'est
ça compte
pour ça que là on s'arrête sur un sujet qui est particulièrement subjectif entre guillemets, entre la région, entre la typologie du bien dans lequel vous allez faire ça, l'environnement de cette piscine, est-ce que effectivement ça va être paysager ou pas, est-ce que elle est à l'ombre ou au soleil, on va pas la valoriser de la même façon, c'est voilà, c'est des petites choses un peu bêtes, mais
non, c'est mais pas bête du tout,
des choses, voilà,
mais du coup compliqué. Quand même dans vos stratégies de travaux au sens large, ouais. La piscine ça arrive clairement à la fin s'il s'agit de revaloriser mon patrimoine, c'est trop risqué.
Oui, pour être très clair,
trop aléatoire.
C'est rarement. Moi, j'ai pas en tête de rencontrer des clients qui nous disent, moi, je voudrais une piscine pour valoriser mon bien. C'est pas la motivation. Ça, j'allais dire, c'est la cerise sur le gâteau. Et d'ailleurs, au-delà de la valorisation, on a souvent tendance à dire que ça a surtout accéléré la vente.
La vente pour les coups de cœur, ouais.
Ce que l'on dit, ce que vous mesurez peut-être chez Gofflin, je sais pas, mais
la
en
piscine,
tout cas,
non.
C'est
la vous ne mesurez piscine, pas là-dessus. Encore, mais
en tout
demain.
Cas, demain vous pourrez peut-être le mesurer. Mais en tout cas, voilà, ça va déclencher le fameux coup de cœur lors de la visite, etc. Mais c'est pas la motivation première, en tout cas de la.
Et la réno énergétique, est-ce que ça peut faire quand même? Parce que vous disiez, c'est pas non plus la motivation première. Vous avez jamais personne qui vous dit, moi, ce que je veux, c'est gagner des notes de performance énergétique, gagner en économie d'usage. Et puis derrière, peut-être embrayer sur effectivement d'autres éléments, un agrandissement, refaire la verrière.
Si, bien sûr. Beaucoup dans le cadre de l'acquisition immobilière. Mmh. Nos clients qui nous sollicitent lors d'une acquisition immobilière, souvent en amont d'ailleurs, parce qu'on les accompagne avant même qu'ils achètent le bien. Ça, pour le coup, c'est un vrai critère pour eux. Parce que, et ça, c'est ce que vous mesurez pour le coup. C'est que on valorise pas de la même façon un bien qui est déjà rénové, un qui ne l'est pas. Donc, on va intégrer ce coût de rénovation dedans et après les frais d'usage du bien liés aussi.
Mais c'est quand même assez dingue, Mia, quand j'entends ça, en fait, parce que malgré tout, oui, il y a quand même effectivement au moment de l'achat cette volonté de faire des travaux, etc. Et ça, on en a beaucoup parlé dans l'émission sur le fait que c'est le bon moment pour faire les travaux aussi, pour l'inclure dans l'enveloppe globale du prêt, quand même. Mais se dire qu'aujourd'hui, techniquement, si je regarde les chiffres, c'est pas ce qui va me rapporter le plus, c'est quand même déprimant, non? Je sais pas, je.
Non, ça n'est pas déprimant parce que vous allez aussi avoir différents types d'acquéreurs. Vous allez avoir l'acquéreur investisseur qui, lui, va plus être tiré par, j'espère pour lui, son fichier Excel et qui va chercher à prendre en compte les choses en se disant, est-ce que ce bien-là, je vais pouvoir le vendre dans 5 ans? Et le facteur de performance énergétique est un facteur clé pour lui. D'autant plus si le régulateur, en fait, est quelque chose qui doit avoir fortement présent à l'esprit. On a la BCE et le DPE, en fait. Donc, c'est les taux de financement, et on voit que les banques aussi commencent à avoir un rôle de plus en plus prépondérant, en fait, utilisent la performance énergétique comme facteur de discrimination, je l'emploie volontairement.
Positive ou négative?
Positive ou négative.
Oui, parce qu'on rappelle, aujourd'hui, quand vous demandez un crédit immobilier, si c'est un logement neuf, vous bénéficiez quand même de prêts aidés, que ce soit de l'État, mais aussi des banques, avec des prêts bonifiés. Et si c'est une passoire, on vous promet aussi, pareil, des petites lignes à taux bonifiés si vous vous engagez à faire les travaux qui permettront à ce bien d'avoir une performance.
Ou certaines banques peuvent vous pénaliser en disant, je veux peut-être un peu plus d'apport, peut-être que vous aurez 20, 30, 40 points de base de plus que le crédit vertueux sur ce bien-là. Donc certaines banques.
Et certains même vous font même pas le crédit. Par exemple, typiquement, je crois que pour l'investissement locatif, arrêtez-moi si je me trompe, mais s'il s'agit d'un logement G déjà, a fortiori, mais F aussi encore, on est capable de vous dire, je ne prendrai pas en compte les revenus que vous allez percevoir, puisque d'ici peu de temps, il sera interdit à la location.
Sauf si c'est un G que vous avez passé à 1,7 de coefficient.
Non, ça y est, vous nous avez tous perdus là.
Pardon.
Et attendez, parce que effectivement, la note pourrait encore être améliorée, parce que figurez-vous qu'il y a toute une réflexion globale, et ça aussi, vous commencez à l'intégrer chez Gofflin.
On commence à regarder, puisqu'on se dit finalement, acheter un bien immobilier, c'est se projeter. C'est-à-dire qu'on regarde, on va regarder dans le passé comme guide sur la valorisation, mais si on a des facteurs externes qui vont affecter la valeur de votre bien, autant chercher à les comprendre et à se dire que se passe-t-il si le facteur, le fameux 1,9, descend à 1,7.
Notre coefficient sur l'électricité, au cas où on est perdu de 3 auditeurs et des spectateurs, le simple fait de changer le mode de calcul du diagnostic de performance énergétique quand vous êtes à l'électrique, là encore, on pourrait avoir encore une amélioration.
Amélioration, et peut-être que vous aurez encore 200 à 250 000 biens qui sont éligibles pour sortir du statut de passoire, et une fois de plus, sans coup de pinceau, sans déposer d'isolant, sans perdre de surface, et peut-être que du coup, vous avez le budget pour mettre une piscine. sauf si c'est un appartement.
Eh bah, ben, vous faites super bien la boucle, Mireille, parce qu'il nous reste 2 minutes et à chaque fois le temps passe trop vite, je sais. Mais justement, est-ce que ça, quelque part, par rapport à ce que vous proposez chez Illico Travaux, le simple fait justement d'avoir ces espèces de changements en permanence, bien que j'ai bien compris que c'était pas forcément l'enjeu des PE qui motivait les envies de travaux, est-ce que ça peut pas non plus jouer là-dessus en se disant de toute façon, faire les travaux aujourd'hui, je sais pas à quelle sauce je vais être mangé demain, donc que ce soit les travaux de rénovation énergétique, mais pareil sur l'embellissement, l'aménagement des combles, l'aménagement du garage. Enfin voilà, est-ce que finalement on n'est pas tous là en train de se dire surtout il est temps de ne rien faire ?
Alors c'est moi j'ai envie de vous dire surtout il est temps d'agir parce que le coût de l'inaction est important. Hein. Pendant ce temps-là, vous continuez à consommer beaucoup d'énergie, votre bien se dégrade, vous ferez comme les travaux à la fin, mais peut-être plus cher. D'ici là, parce qu'en plus, la géopolitique fait
guerre
que...
Guerre au Moyen-Orient, tout ça,
etc. Et votre bien, ça sera dégradé entre temps. Donc ouais. Non, il faut le faire. Par contre, il faut le faire en étant accompagné. C'est ça qui est hyper important. Aujourd'hui, il y a les seuls, c'est une jungle. On en parlait un petit peu avant le début de cette émission. Hein. C'est une jungle quand même pour le client particulier. Et aujourd'hui, il faut être accompagné parce que oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dispositifs. Hein. On est toujours un petit peu à se plaindre, on voudrait toujours plus, etc. Mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de choses. Avec le retour de la prime rénov, avec les C2E, il y a toujours de Normandie, il y a le Jean Brun maintenant, il y a plein d'autres choses aussi. Mais tout seul, vous ne pouvez pas. Et surtout sur la réno énergétique, tout ce que je viens de citer, c'est lié à la réno énergétique. Hein. Et aujourd'hui, vous voyez plein d'acteurs qui vous promettent monts et merveilles aussi, voilà, mais qui sont loin de vous, bien souvent, qui sont pas sur place. Et la rénovation, bah, nous, on est des gens très pragmatiques, quoi. On doit être sur place aussi pour vous accompagner et se tenir au fait de ces évolutions dont vous parlez pour tenir à jour les informations.
Et en amont, avant de vous appeler, François, on regarde sur GoFlint et on regarde si c'est plus intéressant de faire les travaux ou alors de mettre une piscine.
Et particulièrement dans chaque région, parce que j'ai fait l'exercice effectivement et c'est très parlant. J'ai regardé pour les Deux-Sèvres, parce que notre siège social est dans les Deux-Sèvres. Et nous, on est dans le top 5, effectivement, 78% d'écart entre un bien A et G. Donc on fait partie des départements.
Donc là, pas de piscine, mais des travaux,
C'est effectivement ça, on attendra un petit peu pour la piscine.
Merci à tous les deux. Mihai, Gavril Oyu, je l'ai fait, CEO de GoFlint, et François Chavagnac, directeur grand compte d'Illico Travaux. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans les experts de l'IMO sur BFM Business, les experts de l'IMO qui reviennent demain à l'heure de votre déjeuner.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.